France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le jeu des 1000 euros est au Touquet cette semaine, alors c'est le Pas-de-Calais qui est à l'honneur dans les carnets de campagne. Et aujourd'hui, je donne la parole à un scientifique en mouvement. Il organise, dans le Pas-de-Calais notamment, des événements de science participative à vélo pour réfléchir au réchauffement climatique urbain. Et ensuite, on va feuilleter le magazine Village avec un dossier consacré aux chantiers participatifs de restauration du patrimoine. Des bénévoles qui se mobilisent partout en France pour rénover des églises, des remparts ou des lavoirs. C'est une façon de donner du sens à ces vacances. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Le climat en ville sera au cœur d'une conférence internationale prévue à Rotterdam, aux Pays-Bas, à partir du 6 juillet. Erwan Baucher, qui dirige une équipe de recherche en Bretagne, participe à cette conférence et il a décidé d'y aller à vélo, avec toute une équipe et tout un tas de capteurs. Expédition baptisée Vélo Climat. Bonjour Erwan Baucher.
Bonjour Carnet de campagne.
Vous êtes chercheur au CNRS, directeur de recherche en sciences de l'information géographique. Alors le départ de votre expédition est prévu à Saint-Jean-la-Poterie en Bretagne ce jeudi et vous passerez par le Pas-de-Calais la semaine prochaine. Qui participe à ce voyage scientifique ?
Alors participe à ce voyage scientifique 4 chercheurs. Donc des chercheurs en géographie, en climat et en sciences de données géographiques. Ces chercheurs proviennent principalement du CNRS et de l'Université de Bretagne Sud.
Et vous avez des capteurs embarqués sur vos bicyclettes, je le disais. Que vont-ils mesurer ?
Ah oui, alors nous embarquons deux types de capteurs sur nos bicyclettes. Un premier capteur qui s'appelle le vélo-climamètre. Alors le vélo-climamètre, c'est une boîte de 2 litres de diamètre qui contient différents capteurs qui vont nous permettre de mesurer les températures extérieures, l'humidité, les microparticules, un capteur de distance, un capteur de température rayonnante et de pression atmosphérique. Tout ça pour essayer d'évaluer, d'étudier les températures le long de notre parcours. Alors, en plus de ce capteur, ce vélo-climamètre, nous avons également des capteurs physiographiques que nous allons porter sur nous, qui vont nous permettre d'étudier la température de notre corps lorsque nous ferons de la bicyclette.
Alors je le disais, la destination de votre périple, c'est une conférence scientifique qui est prévue aux Pays-Bas. Il y a 2 ans, cette même conférence sur le climat urbain s'était déroulée en Australie. Est-ce que vous y étiez ?
Non, nous n'étions pas à cette conférence en Australie pour une raison simple, c'est que cette conférence nous amenait à prendre l'avion et nous avions décidé d'attendre que cette conférence revienne en Europe pour pouvoir y participer.
Voilà, il y a une forme de logique vu le sujet de la conférence.
Oui, oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'une thermopartie, Erwan Baucher ?
C'est une activité destinée aux habitants, à des participants, des volontaires, qui vont se joindre à nous et qui vont faire des mesures participatives, en l'occurrence ici des mesures de température. Alors que vont faire ces participants ? On va équiper leur vélo de capteurs de température, des capteurs que nous avons développés au sein de notre laboratoire, que les électroniciens ont développés au sein de notre laboratoire, le LabStick. Donc on va équiper les vélos de ces capteurs et on va inviter les participants à parcourir avec leur vélo leur territoire. Et ensuite, on va récupérer ces données de température et on va les discuter avec les participants.
Une thermopartie est justement prévue la semaine prochaine, le 2 juillet à Arras, dans le Pas-de-Calais. Donc, c'est une fête scientifique, vous présentez les choses comme ça ?
Alors, c'est un événement convivial, scientifique, participatif, autour de la problématique du dérèglement climatique et des épisodes de surchauffe lorsque l'on pratique le vélo et plus généralement les mobilités douces. Donc, c'est un événement que l'on souhaite ouvert au grand public et on attend que les participants s'associent à notre aventure et viennent avec nous discuter de ces enjeux.
Quelles sont les vertus de la science participative, d'après vous ? Pourquoi est-ce qu'il est important d'impliquer le grand public dans les travaux de recherche ?
La première vertu, c'est le partage de la connaissance. Le partage de cette connaissance scientifique, on a quand même aujourd'hui tout un tas d'informations qui sont cartographiées, mises à disposition, mais l'une des difficultés, c'est de faire atterrir cette information sur les territoires afin que les habitants, les citoyens, les associations puissent s'en emparer. Donc c'est pour moi la première vertu. La seconde vertu, c'est d'offrir la possibilité aux participants de dialoguer avec les scientifiques et de venir les aider à construire des bases de données ou alimenter des bases de données qui seront ensuite utilisées à des fins de recherche.
Voilà, les données sont utiles hein, et sont nécessaires pour vos travaux de recherche.
Oui, tout à fait. Ces données sont même indispensables et il est indispensable, étant donné que l'on travaille sur cette sur l'usage, la pratique du vélo, d'avoir aussi une diversité de participants qui n'ont pas tous la même pratique ou les mêmes conditions pour pratiquer le vélo.
Finalement, quelles sont les questions auxquelles vous allez essayer de répondre avec cette expédition Vélo Climat ?
Ah, alors cette expédition Vélo Climat, elle rentre finalement dans un projet qui est un peu plus vaste, un peu plus large, qui mobilise des collègues chercheurs des médecins du Centre Olympique Suisse de Genève, des collègues spécialisés dans la métrologie et la mesure des températures. Et ce que l'on va essayer de comprendre, c'est cette relation qu'il existe entre l'organisation, la géographie d'un territoire, l'augmentation des températures et les risques potentiels pour le cycliste lorsqu'il parcourt ce territoire. Pourquoi ? Parce que l'on sait que la géographie, ses formes, l'organisation du territoire, la distribution de la végétation, des bâtiments, viennent perturber les conditions de stockage de l'énergie et d'écoulement d'air et peuvent créer des poches où il fait plus chaud sur ces territoires. Et on va essayer de comprendre cette relation qui existe en fait entre cette géographie du territoire et en fait ces zones de chaleur qui émergent.
Bon, disons-le, vous n'allez pas pouvoir faire la totalité du trajet à vélo. Hein. Vous prenez un peu le train, je crois.
Oui, on va tricher un petit peu, on l'avoue. Nous allons prendre le train entre Alençon et Amiens. Alors, d'une part, pour se reposer également un petit peu, parce que nous transportons du matériel, donc le vélo climamètre, et une vingtaine de capteurs qui vont permettre de construire les thermoparties. Donc, nous aurons besoin d'un petit moment de repos.
Vélo Climat, expédition organisée par la Fondation Géomanum. Rendez-vous notamment le 2 juillet à Arras, dans le Pas-de-Calais, pour une thermopartie. Arrivée prévue le 6 juillet à Rotterdam. Merci beaucoup, Erwan Baucher.
Eh bien, merci beaucoup au carnet de campagne et merci pour votre invitation.
Une auditrice du Pas-de-Calais, Noémie, nous a écrit pour parler des 20 ans du Germoir. Le Germoir, c'est un tiers-lieu rural du Haut-Pays du Montreuillois à Ambricourt qui développe de nombreuses activités autour des grands enjeux de la transition écologique, écrit cette auditrice. Maraîchage bio, alimentation durable, préservation de la biodiversité. Le 28 juin, ce samedi, poursuit-elle, nous ouvrons nos portes aux habitants et habitantes du territoire. Des activités gratuites pour toute la famille sont prévues afin que chacun puisse passer un moment agréable au vert. Au menu, entre autres, des visites, un petit marché, des dégustations, des balades avec les ânes, un moment fort de rétrospective des 20 ans du Germoir, de la musique et bien entendu, une buvette et un repas bio et local. Rendez-vous samedi donc à partir de 15h au Germoir. C'est à Ambricourt, dans le Pas-de-Calais. Et puis je voulais vous dire un mot d'un restaurant breton, toujours dans le Pas-de-Calais. Une crêperie à Béthune, baptisée Le Petit Plus, qui embauche des jeunes porteurs de handicap mental ou atteints de troubles cognitifs. Trisomie 21 et autisme, notamment. Ils sont en salle et en cuisine. Resto créé par Franck Cagnard, ancien salarié de l'usine Bridgestone, qui a fermé ses portes dans le Pas-de-Calais en 2021. Aller manger une galette complète dans ce resto, c'est un geste militant en faveur de l'inclusion professionnelle et du changement des regards sur le handicap. Le Petit Plus, c'est à Béthune, pas loin de la Grand Place.
France Inter, carnet de campagne.
Et on va feuilleter Village à présent, le magazine Village, partenaire des carnets de campagne. Un nouveau numéro vient de sortir, celui de l'été 2025. Bonjour Sylvie Le Calvez.
Bonjour Dorothée.
En duplex depuis le studio de Ici Normandie, directrice de la publication de Village. Alors il y a des vieilles pierres à la une, Sylvie. Un dossier consacré au patrimoine et surtout à l'importance du bénévolat pour sauver le patrimoine en péril. Les vieilles pierres reposent sur la mobilisation citoyenne.
Oui, beaucoup de jeunes d'ailleurs, hein, d'après l'Observatoire de Cotravaux, qui est une structure qui rassemble des associations de mise en valeur du patrimoine et de restauration. Plus de la moitié sont des jeunes entre 18 et 25 ans finalement. Alors, pour des chantiers courts comme ça, ils se mobilisent, ils apprennent des techniques de restauration, de murs en pierre sèche, principalement, hein, mais aussi plein d'autres techniques de terre, etc.
Quand on parle du patrimoine, il s'agit en l'occurrence de remparts, de lavoirs, de pigeonniers, d'églises. L'inventaire exhaustif est impossible. Il faut préciser, Sylvie Le Calvez, que jusqu'au milieu du 19e siècle, plus de 80% des Français habitaient à la campagne. Ça explique la richesse de ce patrimoine. Aujourd'hui, c'est seulement 30% de la population qui habite en zone rurale. Or, l'abondance souvent se conjugue à l'abandon.
Oui, forcément, on était très nombreux dans cette période-là, au milieu du 19e siècle. Hein, il y avait des tisserands, il y avait des tas de métiers artisanaux qui nécessitaient ce genre de construction aussi. Puis la ville, il n'y a pas la machine à laver, il y avait le lavoir, etc. Donc, effectivement, ça constitue un beau patrimoine. C'est d'ailleurs un peu de ça qu'est né le magazine Village, d'ailleurs, parce que j'étais partie en voyage au Canada, et quand je suis rentrée, je me suis dit, mais c'est incroyable la richesse de ce patrimoine, on pleure sur la désertification, que ce serait un vrai levier, un vrai atout pour demain, et c'est en partie ce qui a motivé la création d'ailleurs du magazine, c'était de valoriser toute cette beauté patrimoniale, bien sûr architecturale, mais aussi naturelle.
Alors il y a beaucoup d'exemples, bien sûr, dans ce dossier du magazine Village, qui est signé par Axel Puig, notamment le village de Saint-Perdoux, c'est dans le Lot, 200 habitants, et il y a un petit bataillon de bénévoles qui s'y installe chaque année pour retaper des murs en pierre sèche ou pour réparer des toitures. Ce sont des chantiers en famille. Et c'est assez impressionnant, hein, je dois dire, de voir que des gens, pendant leurs vacances, vont participer bénévolement à des chantiers de restauration du patrimoine.
Oui, alors c'est vrai que on vient en famille avec les enfants et parfois justement il y a le matin les enfants ils aident par exemple à poser des petits cailloux dans les murs pour remplir voilà pas des choses trop lourdes bien sûr et puis l'après-midi ils ont des activités des choses plus ludiques pour les occuper et donc c'est super on peut venir en famille et au lieu de juste farniente sur la plage apprendre en même temps à savoir-faire des territoires c'est vraiment un beau moment à partager.
Ça pose la question de l'utilité hein, quand on restaure un lavoir par exemple ce n'est pas dans l'idée d'y laver son linge aujourd'hui. Il faut se réapproprier les lieux, il faut leur trouver un nouvel usage.
Oui, ça c'est la clé, hein. C'est comment on ne fige pas, finalement on ne fait pas une France musée ou des campagnes musées, mais comment on s'en sert de levier d'attractivité pour des gens qui viendraient à l'année y habiter, parce qu'ils se sont dit « Ah c'est joli ici, c'est vivant, les gens ont participé à la restauration », et puis ça peut être aussi bien d'ailleurs des logements que effectivement un lavoir, que je sais pas, un four à pain, un muret, qui donne le charme au village, qui donne son esprit, qui fait qu'on a envie de s'y installer à l'année. En tout cas, c'est vraiment la volonté des élus et des associations. C'est pas juste de faire du surtourisme, surtout pas de faire du surtourisme.
Et comment sont financés ces chantiers participatifs ?
Ah mais il y a plusieurs aides mobilisables. Il y a des fonds souvent d'État et puis de plus en plus de legs ou de fonds privés. C'est le cas par exemple de la Fondation du patrimoine qui récolte quand même maintenant une centaine de millions. C'est pas rien pour organiser 700 chantiers de bénévoles par an de la part de mécénats d'entreprise ou de legs.
De dons privés hein, pour la plupart.
Oui, de dons privés, parce qu'effectivement, les collectivités ont aussi moins de moyens. Donc, il y a eu un transfert. Hein. Il n'y a pas forcément plus de budget pour le patrimoine, mais il y a eu un transfert dans les financements.
L'exemple de la cocotte numérique, toujours dans ce reportage du magazine Village, est assez intéressant. Ça se passe dans le Cantal, un ancien couvent qui est devenu un espace de coworking avec des bureaux partagés, des salles de réunion, des ateliers d'artisans et même un Fab Lab, un atelier numérique avec imprimante 3D. C'est un gros atout en termes d'attractivité hein, dans un territoire qui en a bien besoin.
Oui, ça montre bien qu'effectivement, il faut associer la beauté du patrimoine et des espaces pour travailler. On est vraiment dans l'illustration concrète de ça. On est à Murat, hein, dans le Cantal, une commune qui fait 1770 habitants, donc un petit bourg. Et c'est vrai que là, c'est un atout parce que les coûts sont attractifs. Hein. On paye en gros 120 euros par an pour un accès limité à l'espace de coworking, par exemple. Donc c'est rien quand on compare à des coûts urbains, par exemple.
Voilà, un patrimoine pour bâtir demain. C'est un dossier à lire dans le nouveau numéro du magazine Village qui est en kiosque. Merci beaucoup Sylvie Le Calvez.
Merci beaucoup Dorothée, à bientôt.